VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle en France. Le pro-européen Emmanuel Macron, largement élu président de la République française, s'attelle dès ce lundi à la formation de son gouvernement pour mener la difficile bataille des élections législatives de juin dans un pays profondément divisé. Des chantiers majeurs attendent le nouveau président. Endiguer un chômage endémique, 10%, faire face à une forte menace terroriste et relancer une Europe affaiblie. Maintenant, les réactions sur le continent africain à Bangui en Centrafrique, les avis sont partagés, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
J'ai vu que Macron, c'est quelqu'un qui veut que la libéralisation au niveau de la France, lui, il veut que la France vraiment soit toujours en contact avec le monde, avec l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très content d'écouter qu'il est devenu le président de la République en France. La liberté qui triomphe aujourd'hui. Et je vois que c'est la mondialisation.
Moi, je supporte Madame Marine Le Pen, mais malheureusement, avec ce choix français, je ne peux qu'incliner devant tout ce choix. Mais vous savez que Madame Marine Le Pen est une dame très, très, très idéologique. Son idéologie est beaucoup plus patriotique. Vraiment, je suis désolé pour cette défaite de Madame Marine Le Pen.
Je respecte ce choix parce que il revient de droit à tous les Français de choisir qui doit les diriger. Donc, bien que j'ai un penchant pour Macron, mais ça ne veut pas dire qu'en devenant président aujourd'hui de la France, que tout va changer en République centrafricaine. Un message fort qu'on a lancé déjà aux jeunes pour leur prouver que même un jeune peut diriger une République.
Je suis centrafricain, donc je ne suis pas trop intéressé par les trucs de la France, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Moi, je voudrais d'abord féliciter les Français pour ce choix parce que c'est vraiment un choix qui les tient à cœur. Donc, je suis pour Macron parce que c'est un homme très optimiste. Il a des ambitions très réalistes.
Je trouve sa politique un peu nouvelle et voilà, ça peut apporter de changements et voilà.
Macron nous avait présenté des plans, à savoir beaucoup de choses et je crois qu'il a bien mérité.
Des réactions en Centrafrique recueillies par notre correspondant Freeman Sipila. On va maintenant au Niger où notre correspondant Niamey Abdoul Razak Idrissa a recueilli également des réactions.
Je pense que ces élections, d'abord, prouvent à la face du monde que tout est possible. C'est un jeune de 39 ans qui remporte les élections. Il a déclassé toute cette vieille classe. Aujourd'hui aussi, son élection a mis fin à la peur qu'avaient d'abord les Français et ensuite les autres. Donc, c'est en cela que nous saluons vraiment le sens élevé du patriotisme du peuple français pour avoir su faire vraiment la différence entre la peste et le choléra. Aujourd'hui, avec l'élection de Macron, vous savez, les dirigeants français, ils ont tout le temps été clairs. Ils ont dit que la France n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts à défendre. Emmanuel Macron, dans sa politique, en tout cas, il va continuer à défendre l'intérêt de la France. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'Africains, de chercher à tirer notre épingle du jeu en défendant l'intérêt du Niger.
C'est une victoire de la démocratie sur la tyrannie parce que nous pouvons le dire, Marine Le Pen représente tout ce qu'il y a de tyran dans ce monde. Ça montre aussi que les Français savent ce qu'ils veulent, qu'ils sont rattachés à ces valeurs démocratiques et que c'est des hommes de droits de l'homme. Et en tant qu'Africains, nous pensons que Emmanuel Macron va continuer la promotion de la démocratie en Afrique et amener nos chefs d'État aussi à réfléchir en ce qui concerne les attentes de leurs concitoyens.
Je ne pense pas s'il y aura vraiment trop de changements. C'est vrai que Manuel, c'est un jeune. On peut espérer sur lui. C'est le plus jeune des présidents. Peut-être que lui, il fera un peu de changement vis-à-vis vraiment de l'Afrique, surtout sur le plan économique.
Des réactions au Niger à la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française. Il a largement battu Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, attaque terroriste à Al-Mustarat dans le nord du pays contre une position de l'armée malienne. Le bilan provisoire est de 7 soldats tués, 17 blessés graves, 16 disparus, plus des munitions et des pick-up emportés par les assaillants. Cette attaque porte la marque de la nouvelle alliance terroriste que dirige le malien Iyad Ag Ali. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Al-Moustras est située dans le cercle de Bourem, à 150 km de la ville de Gao. C'est dans cette localité que la position des militaires maliens a été attaquée très tôt le dimanche 7 mai 2017. C'est une voiture kamikaze qui a foncé sur la position des FAMA en détruisant deux véhicules. Le poste de l'armée malienne a été attaqué à Tarking, à 15 km d'Al-Moustras ville. Le bilan provisoire est de 7 soldats maliens tués, 17 grièvement blessés, 16 portés disparus, 3 pick-up et des munitions emportées. Le réseau téléphonique de la localité a été fortement perturbé, ce qui n'a pas facilité la tâche aux soldats maliens. Malgré tout, la force française de l'opération Barkhane a pu évacuer plusieurs blessés graves sur Gao. Il faut signaler que ce n'est pas la première fois que la localité d'Al-Moustras est attaquée par des individus armés non identifiés. Le 25 mars dernier, 3 soldats maliens ont été tués, 4 autres blessés, dans une attaque contre les checkpoints de l'armée malienne à Al-Moustras, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, plus d'une centaine d'anciens rebelles démobilisés bloquent ce lundi matin l'accès sud de Bouaké, dans le centre du pays, ville qui a été le point de départ de plusieurs mutineries en janvier. On veut notre part du gâteau, scandait d'après l'AFP ces hommes qui arboraient des bandeaux rouges de l'ex-rébellion du Nord. Les contestataires ne sont pas armés, selon les autorités militaires ivoiriennes. Et toujours en Côte d'Ivoire, et précisément à Abidjan, la capitale économique où vivent plus de 5 millions de personnes, se loger est un véritable casse-tête pour les populations. Le coût des loyers est jugé exorbitant et malgré la mise au point par le gouvernement d'une politique de logements sociaux, la situation ne s'améliore pas. À Abidjan, les explications de notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tonkara.
Quand vous trouvez un loyer quelconque, on vous dit 10 mois d'avance. En plus de cela, il faut ajouter l'eau, l'électricité et chercher à manger pour les enfants et tout ça. Mais où allons-nous? Le logement en Côte d'Ivoire, il est vraiment cher.
Le logement en Côte d'Ivoire coûte cher. Le sentiment de Dou Sam, ce sexagénaire à la retraite qui vit à Yopougon avec sa famille, est partagé par de nombreux Ivoiriens comme Soumaoro Mamadou, un homme d'affaires.
Il y a une carence véritable. Les loyers sont fixés comme ça. Le gars, il se lève, il fixe ce qu'il veut. Ça apprend nous à laisser.
Pour un logement confortable de 3 pièces, il faut débourser au moins 150 000 francs CFA dans des communes comme Yopougon, Kokodi ou Markouri, sans compter la caution et l'avance exigée par les propriétaires de maisons. Doussam pointe un doigt accusateur vers l'État.
L'État ne fait qu'augmenter les prix, donc on ne peut pas en vouloir aux pauvres propriétaires. Aujourd'hui, un sac de ciment, je ne sais plus combien il coûte en Abidjan, mais si le monsieur réussit à construire, qui me dit de payer sa maison à 70 000 francs, si je veux vivre dans le luxe, je suis obligé de payer, auquel cas je dors dans la rue.
Lors de la campagne électorale en vue de la présidentielle de 2010, Alassane Ouattara avait fait de l'accès au logement une de ses priorités. Mais 6 ans après, le constat est triste selon Marius Okomoué, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire.
Nous n'avons que nos yeux pour pleurer parce que c'est suscité et réveillé en nous nos angoisses, nos peines, nos mécontentements. Même dans la politique actuelle des logements qu'on a dit sociaux, ceux-mêmes qui sont déséconomiquement faibles n'ont pas accès à ces maisons. Les mêmes qui sont DG, PDG, PCA et j'en passe, ce sont eux qui mettent à la disposition des usagers les économiquement faibles s'entend et bien des maisons en location.
Face aux difficultés d'accès au logement, certaines corporations s'organisent. C'est le cas notamment des commerçants. Soumaoro Farikou de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI.
Nous avons signé une convention avec une structure privée ici pour l'acquisition de 100 000 lots pour nos adhérents. Nous avons eu des partenaires canadiens et ces lots seront faits en fonction du pouvoir d'achat de chaque catégorie de commerçants.
Selon le gouvernement ivoirien, le déficit en logement est de 400 000 logements par an pour l'ensemble du pays, dont 200 000 pour la seule ville d'Abidjan. Le 1er mai dernier, lors de la fête du travail, les syndicats ivoiriens ont tous dénoncé devant le président Ouattara les difficultés d'accès au logement. Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara, VOA Afrique.
Nigeria, le président nigérian Muhammadu Buhari est parti dimanche soir à destination de Londres pour des examens médicaux et ce, peu après avoir reçu 82 lycéennes de Chibok libérées par le groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé la présidence nigériane. Et pour terminer, au Soudan du Sud, la guerre civile a forcé plus de 1 million d'enfants à fuir le pays et ont déplacé 1 400 000 autres à l'intérieur du pays. C'est ce qu'annoncent deux agences de l'ONU, l'UNICEF et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.